Avant de poursuivre mon récit, je voudrais remonter en arrière, dans mon enfance. Je suis née dans une petite ville de Normandie, sale et triste. Mes parents, qui étaient marchands de bois, ne s'occupèrent pas de mon éducation. Ils m'avaient créée sans joie, ils m'élevèrent sans amour. Je crois avoir dit qu'au point de vue intellectuel et moral, c'était de pauvres diables. Je ne parlerai pas de mon père, qui était sans autorité dans la maison. D'ailleurs, je le vis très peu. Il partait le matin dès l'aube, courant les centes et les adjudications de bois, et ne rentrait que le soir, souvent fort tard. Je ne connus pour ainsi dire que ma mère. Elle ne m'aimait pas. Du moins, elle semblait ne pas m'aimer. C'était une petite femme sèche et très nerveuse, qui ne pouvait supporter l'agitation d'un enfant. Elle m'obligea au silence et à la solitude. Dès que je faisais mine de parler, elle me fermait la bouche par ces mots prononcés d'une voix coupante: un enfant ne doit jamais parler. De très bonne heure, j'appris à vivre en moi, à parler en moi, à jouer en moi. Et j'avoue que ce ne me fut pas très douloureux. C'est à cette enfance silencieuse que je dois d'avoir acquis cette puissance de pensée intérieure qui m'a permis de vivre souvent des vies merveilleuses. Mon père gagnait péniblement l'existence du ménage. Il ne faisait pas de très bonnes affaires. Il en faisait même souvent de mauvaises. Et c'était entre ma mère et lui des disputes continuelles, dans lesquelles il s'avouait tout de suite vaincu. Quand il rentrait de ses longues courses, transi de froid et la faim au ventre, il commençait par recevoir sur le dos une grêle de reproches, bien avant qu'il eût rien dit. Ces scènes se reproduisaient presque tous les soirs. Mais mon père en avait acquis l'habitude. Elles glissaient sur lui comme les averses sur un parapluie. Et le dos rond, le visage indifférent, il se mettait à table et dévorait silencieusement sa soupe. La plupart du temps, j'étais couchée lorsque mon père rentrait. Mais si par hasard je ne l'étais pas, c'était la même chose pour moi, car il ne m'adressait pas la parole, dans la crainte de déplaire à sa femme. Et il m'embrassait, pour la forme, d'une bouche que je sentais indifférente et lasse. Ah, je le vois toujours avec sa grosse figure humble et servile, et sa barbe malpropre, et sa toque et sa peau de chèvre, qui lui donnaient l'air d'une grosse bête, débonnaire et domestique. Ce fut ma mère qui me donna mes premières leçons. Elle avait la prétention de m'apprendre à lire et à écrire. Vous pensez avec quel succès. Vous voyez d'ici quel maître calme et patient j'avais en elle. Elle voulait que j'eusse répondu à ses questions avant qu'elle ne les eût formulées. Elle ne souffrait pas que je réfléchisse un seul instant. Aussi, au bout de 8 jours, après m'avoir administré sur les joues force gifle et sur les doigts force coup de règle, elle déclara que j'étais trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Elle décida pourtant qu'on m'enverrait à l'école primaire, chez les frères. Là, je me montrais un élève studieux, rangé, intelligent, de quoi ma mère ne voulait pas convenir. Lorsqu'on lui parlait de moi avec éloge, elle s'emportait. « Qu'est-ce que vous me dites ? » s'écriait-elle. « C'est un enfant indécrottable. On n'en peut rien tirer. C'est son père tout craché. » Il y avait dans la petite ville que nous habitions une sorte de petit collège communal, et dans ce petit collège, une sorte de petit professeur qu'on appelait Monsieur Narcisse. Ce Monsieur Narcisse venait souvent chez nous. C'était un petit brun, timide et prétentieux, d'une assez jolie figure et que ma mère prenait plaisir à recevoir. J'avais remarqué que Monsieur Narcisse était le seul être au monde envers qui ma mère se montra douce et affectueuse. Sa voix, quand elle lui parlait, devenait subitement pleine de tendresse. Cela m'étonnait et me gênait infiniment. je ne voyais jamais venir Monsieur Narcisse chez nous sans une sorte de peine et presque de honte. Monsieur Narcisse me tapotait la joue avec amabilité. Quelquefois, il me prenait sur ses genoux et m'embrassait avec de gentilles paroles. Mais, chose curieuse, je sentais très bien que ses paroles gentilles et ses caresses n'étaient pas pour moi. D'ailleurs, lorsqu'il était là, je ne restais jamais longtemps. Et ma mère ne tardait pas à me dire « Allons, mon petit Georges, va jouer dans ta chambre. » Un jour, M. Narcisse me dit « Est-ce que vous seriez content, mon petit Georges, si je vous apprenais le latin et le grec ?»«
Il ne faut pas vous donner cette peine !»
répliqua ma mère en roulant des yeux humides de joie. « Georges n'est pas un enfant comme les autres. Il n'apprendra jamais rien. C'est son père tout craché. »«
Mais non, je vous assure !» insista M. Narcisse. « Je pourrais venir deux fois par jour, le matin avant la classe et après-midi. Est-ce que cela vous plairait ?»«
Mon Dieu, comme vous êtes bon !» s'écria ma mère. « Mais quelle charge ce serait pour vous ! Vous êtes trop bon, monsieur Narcisse ! Vous êtes... »
Ma mère ne put pas achever, tant elle était émue. Et il y avait dans ses petits yeux noirs une flamme étrange, une flamme qui me fit presque pleurer. Et tout à coup, « Non !» criai-je, « je ne veux pas !» Et je me mis à fondre en larmes. Monsieur Narcisse essaya de me calmer, et j'entendis ma mère qui disait « Laissez-le donc, monsieur Narcisse, vous n'en tirerez rien. Naturellement, il ne veut rien faire pour sa famille. Il aime mieux rester une bête toute sa vie, ou que sa famille dépense des 1000 et des 100 pour son éducation. »
Enfin, malgré ma résistance, qui avait d'ailleurs faibli sous les regards sévères de ma mère, il fut décidé que monsieur Narcisse serait mon professeur, qu'il m'apprendrait le grec, le latin, l'histoire et la tenue des livres. La tenue des livres, surtout. Une fois qu'il fut parti, ma mère me flanqua. D'abord une gifle, puis une autre, et elle me dit, blanche de colère, « Ah, je t'apprendrai à pleurer et à faire la bête devant monsieur Narcisse, et que je te vois le regarder de travers et le mal recevoir. « Tu auras affaire à moi, petit imbécile !» Et elle ajouta, « Tu me feras le plaisir d'être levé et prêt demain, à 7 heures, pour la première leçon. Un professeur comme ça !» Il fut en effet mon professeur, monsieur Narcisse, et vous allez voir de quelle manière et ce qu'il m'enseigna. Ma chambre communiquait avec celle de mes parents, et n'était séparée de celle-ci que par une mince cloison de briques. Un lit de fer, une petite table de bois blanc, deux chaises de paille en composaient le mobilier. Je n'habitais cette chambre que depuis 2 ans à peine. Autrefois, elle servait de débarras. Moi, je couchais dans la chambre de mes parents, qui était bien plus belle, car il y avait un lit, d'amples rideaux en reps grenat, une peau de renard, un peu chauve et bordé de drap rouge en guise de tapis, une toilette d'acajou qui, dans la journée, faisait office de commode, et sur la cheminée, entre 2 flambeaux de bronze, une pendule dorée sous un globe. J'en fus, en quelque sorte, chassé à la suite d'un incident que je n'hésite pas à raconter à cause de son indicible tristesse. Une nuit, je fus réveillé en sursaut. La lampe brûlait encore sur la table de nuit et répandait dans la pièce une clarté lugubre. Quand on sort du sommeil, brusquement les bruits, les ombres, les objets, même familiers, prennent une intensité et des déformations extraordinaires. Que s'était-il passé? Je ne saurais le dire exactement. Ce que je sais, c'est que sous l'impression de quelque chose d'anormal qui m'effraya, un craquement du lit, des voix étouffées qui venaient du lit, des voix qui ressemblaient à des gémissements et à des râles, je me dressai soudain hors des draps et d'une voix qui appelait au secours, je me mis à crier « Papa qui bat maman ! Papa qui tue maman !» Un gros juron, puis la lampe s'éteignit, puis dans les ténèbres
« Veux-tu bien te taire, animal ? Mais qu'est-ce qui lui prend à ce petit imbécile ?»
C'était la voix de mon père, une voix sourde, un peu haletante et furieuse.
« Oh, cet enfant, ce maudit enfant !»
C'était la voix de ma mère. Et ce fut, ensuite, un assez long silence. Oh, l'effarement de ce silence, qui me parut durer des siècles et des siècles. Je m'étais recouché, tout tremblant, et je me faisais si petit, que j'espérais disparaître, me fondre dans ses draps. Et pour ne plus rien entendre, j'avais accumulé par-dessus ma tête les couvertures. Pourtant, j'entendis encore ma mère qui disait, tout bas,
« Non, plus maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas rendormi. Il est si sournois, si vicieux, avec son air de ne rien voir et de ne rien dire. »
Et quelque temps après,
« Il est trop grand maintenant, » affirmait mon père. Il faudra qu'il couche dans la chambre à côté. « Tais-toi donc. Je suis sûre qu'il entend tout ce que nous disons. Il faut dormir. » « C'est embêtant. »
Et au bout d'un quart d'heure, j'entendis un double ronflement qui emplissait la chambre, redevenu paisible, de sonorité de violoncelle. Le lendemain, aidée de la femme de ménage, ma mère débarrassait la chambre d'à côté. Elle ne me dit rien. Ne me fit aucun reproche, mais elle avait un air dur et rancunier. Quand ce fut fini, elle déclara d'un ton bref « Voici ta chambre, tu y coucheras ce soir. » Et c'est là que depuis 2 ans je dormais, je rêvais, je songeais. On se souvient que dès le lendemain de la visite que j'ai racontée, M. Narcisse devait venir pour me donner sa première leçon. À 7 heures, j'étais levée et habillée. Mon père était déjà parti, ma mère dormait encore, et la femme de ménage balayait l'escalier. Il faisait un petit jour sournois et triste, qui rendait plus intolérablement pauvre ma chambre. Et cependant, la veille, ma mère l'avait décoré de nouveaux meubles, à l'intention de mon professeur. Elle avait ajouté une sorte de vieux fauteuil, un tapis devant la cheminée, et elle avait couvert la table de bois blanc d'un antique châle brun mangé de mite. Monsieur Narcisse entra. En me voyant,
« Ah, c'est très bien !» dit-il. « Déjà prêt !»
Il posa sur la table une pile de livres qu'il avait apportés, enleva son chapeau et son pardessus élimé, puis, se frottant les mains, il répéta.
« C'est très bien !»«
Tiens !» J'ai rencontré votre père en cabriolet dans la rue des Trois Hôtels. Il est matinal aussi, le papa. » Il prit un livre dans la pile et l'ouvrit.
« Ah ah ! » fit-il. « Savez-vous ce que c'est que ce livre ?»«
Non, monsieur Narcisse. »« Eh bien, c'est une grammaire latine, mon enfant. Et voici ce que nous allons faire. Asseyez-vous. » Quand je fus assis en face de la table, il étala le livre devant moi. « Vous voyez ceci, Rosa la rose, Rosae, génitif de la rose, etc. Vous allez m'apprendre cela par cœur. Ce n'est pas difficile. Et quand vous le saurez, vous me le réciterez. Jusqu'ici. » Il faisait mouvoir son doigt en mouvement cadencé comme un chef d'orchestre son bâton. Il répéta « Rosa la rose, Rosae de la rose, vous avez compris. » Puis brusquement, « Et votre mère ? » me demanda-t-il. « Je voudrais bien la voir. J'ai à lui parler de choses très importantes. Est-ce qu'elle ne va pas venir ?»«
Maman n'est pas levée, » répondis-je. « Je crois que maman dort. »
« Ah, sapristi, c'est fâcheux !» Mais la porte s'ouvrit à ce moment et ma mère parut. « Ah, monsieur Narcisse » dit-elle, simulant une surprise joyeuse. « Vous êtes là, comme vous êtes exact. » Monsieur Narcisse s'inclina et il répondit « On le serait à moins, madame. » Ma mère dit encore « Vous avez entrepris là une tâche bien difficile, monsieur Narcisse. » « Avec votre concours, madame, » répliqua le professeur, dont les yeux prenaient des expressions d'extase. « Avec votre concours, croyez-moi, nous arriverons au but. » Et à ce propos, j'aurai des choses à vous dire, des instructions, des conseils à vous donner. « Mais certainement. » Et elle fit entrer dans sa chambre monsieur Narcisse, qui, avant de disparaître derrière la porte, se tournant vers moi, me recommanda. « Rosa la rose, Rosa et de la rose, apprenez cela par cœur, faites bien attention. »« Tu entends ?» appuya ma mère, dont le regard, un instant adouci par la présence de monsieur Narcisse, redevint dur et menaçant en se fixant sur moi. Je restai seule dans la chambre. Quelle chose importante monsieur Narcisse avait-il donc à confier à ma mère ? Je ne voulus pas y songer. Sans prendre garde aux recommandations de cet étrange professeur, je quittai la table et j'allai vers la fenêtre. Le jour s'était éclairci. De grands nuages bas glissaient, dans le ciel, au-dessus des maisons. Et, sans savoir pourquoi, j'étais triste, triste à mourir. Je ne veux pas faire un récit détaillé des rapports trop familiers de ma mère avec M. Narcisse. Il serait trop mélancolique pour moi, et peut-être même gênant pour ceux qui liront ces lignes. On n'aime pas qu'un fils descende trop profondément dans les intimités de ses parents. La scène que j'ai contée se reproduisit exactement pareille durant toute une année, trois fois par semaine. Et je finis par comprendre quel était le véritable caractère des visites de M. Narcisse. Je n'en souffris pas trop, et même je n'en souffris pas du tout, car je leur dus une tranquillité relative. En somme, ce fut une trêve dans ma vie. Non seulement je n'eus plus à subir les tracasseries journalières et les incessants reproches de ma mère, mais encore, je remarquais qu'elle gagnait en beauté physique, comme elle avait gagné en beauté morale. Ses yeux s'étaient adoucis, sa peau, un peu cendreuse, s'était éclairée et colorée. Sa démarche, ses gestes, avaient pris de la souplesse et de la longueur. Ce qui me frappa aussi, c'est qu'elle devenait sentimentale et poétique. Bien des fois, je fus étonnée de la voir, qui regardait les choses avec des yeux mouillés. Quant à M. Narcisse, il était très bon avec moi, et il faisait de son mieux pour me plaire. Naturellement, occupé de ma mère comme il l'était, il n'avait pas le temps de m'instruire sur le latin, mais il m'apportait des livres que je dévorais. Et bien qu'ils fussent presque tous d'une grande stupidité, ils développèrent en moi le goût de réfléchir et de penser. Le dimanche, M. Narcisse dînait chez nous. Sur le désir de ma mère, il m'apprenait à calculer. Si bien qu'au bout de peu de temps, surprise de mes aptitudes, elle me confiait, en quelque sorte, la tenue des livres de la maison. Ah, ces dimanches! Après toute une journée de travail, lorsque le soir, après dîner, nous étions réunis autour de la table où nous jouions au bog, où M. Narcisse, qui était très pauvre, n'ayant que son maigre traitement, passait par toutes les transes et par toutes les joies de la perte ou du gain. Un soir, je me souviens, la guigne s'acharna sur le misérable professeur. Il perdit 3 francs. Ce qui ne s'était pas encore vu. Et ces 3 francs, c'était mon père qui les avait gagnés. Narcisse ne les possédait pas. Il dut s'excuser. « Et quand on n'a pas le sou, on ne joue pas !» proféra mon père. Et il s'exprima en termes presque insultants sur le compte de M. Narcisse. Alors, ma mère, très pâle, intervint. « Ce n'est pas à toi de parler, » dit-elle à son mari. « Puisque tu acceptes, lâchement, que M. Narcisse dirige l'éducation de notre fils pour rien, L'éducation de Georges ? S'exclama mon père. Ah bien, elle est propre. Et qu'est-ce qu'il sait ? Qu'est-ce qu'il a appris ?
Tu es un misérable et tu vas te taire ou...
Ma mère s'était levée. Je ne sais quelle menace planait au bout de sa main étendue. Mon père se tut.
Je vous demande pardon, monsieur Narcisse, de la brutalité de mon mari, dit ma mère.
Et monsieur Narcisse, tour à tour très rouge et très pâle, roulant des yeux effarés, répétait
« Ce n'est rien, madame, ce n'est rien. »
Nous vécûmes ainsi un an. Et voilà que tout d'un coup, on apprit que monsieur Narcisse était déplacé. On l'avait nommé professeur de cinquième dans un département lointain. Ma mère fut malade. Elle garda le lit pendant 15 jours. Moi aussi, j'eus un grand chagrin. Et je pleurais à la pensée que je ne verrais plus monsieur Narcisse. Et la vie recommença, âpre, dure. On n'entendait plus dans la maison que les cris de colère, les bousculades, les reproches de ma mère contre tout le monde. Ses yeux retrouvèrent leur hostilité ancienne. Sa peau redevint cendreuse et grise. Toute la journée, on la voyait en camisole sale, en savate traînante, dépeignée, s'en prendre à tous et à toutes choses, à un malheur qu'elle n'avouait pas. Durant cette période de ma vie, je n'aimais qu'une chose, les livres. Mais que de difficultés pour s'en procurer dans une petite ville morte et stupide où presque personne ne lisait, et où d'ailleurs, renfermée dans ma chambre comme je l'étais, je ne connaissais pour ainsi dire personne, je ne parlais à personne, qu'à des pauvres, lesquels ne lisent jamais rien. Je n'aimais aussi qu'un seul être. Et il arriva que cet être que j'aimais était un chien. Un soir, mon père nous ramena un chien. C'était un petit chien à taches jaunes et blanches, très laid, très maigre et très craintif. Il avait le poil triste et sale, et il boitait de la patte de derrière. Mais comme il me parut joli dans sa laideur, si tant est qu'un chien ou une bête quelconque puisse jamais être laid. En deux mots, ce chien était un résumé de toutes les races de chiens. J'entends les races pauvres et vagabondes. Il appartenait à cette catégorie de chiens prolétaires qu'on appelle des loulous. Lorsqu'il entra dans la salle à manger, où nous étions ma mère et moi, mon père avait encore sa peau de bique et il tenait le chien sous son bras gauche. Ayant aperçu ce nouvel hôte, ma mère s'écria, consternée,
« Qu'est-ce que c'est encore que ça ?»«
Ma foi, c'est un chien, » répondit mon père, qui était peu descriptif. Et ils s'invectivèrent âcrement. Moi, pendant ce temps-là, j'observais que le petit chien qui semblait avoir très peur de mes parents semblait aussi me regarder avec sympathie. Il y avait dans ses yeux, vifs, mobiles et graves, quelque chose comme une prière vers moi. J'en fus ému et charmé, et je l'aimais tout de suite de sa confiance. La dispute dura longtemps, et elle fut très vive. Le chien suivait toutes les phases avec des regards effarés et suppliants à la fois. Il fut convenu pourtant qu'on le garderait, mon père ayant fait remarquer que si notre voisin, l'épicier qui avait été dévalisé 8 jours avant de toutes ses chandelles et de tout son café, avait eu un chien pour l'avertir de la présence des voleurs, il n'eût peut-être pas été dévalisé. Il déclara « Je te dis que ces chiens-là, c'est très bon pour les voleurs et pour les rats. Et puis ça n'est pas gênant dans un ménage. Ça ne coûte rien de nourriture. Ils vont chercher leur vie dans les ordures de la rue. »
Oui. Siffla ma mère. Et chez le boucher aussi. Tous les mois, on vous apporte des notes de côtelettes et de gigots.
Mon père haussa les épaules et montrant le petit chien.
Allons donc, des gigots. Mais qu'est-ce que tu chantes? Une petite bête comme ça. Avec quoi veux-tu qu'elle prenne des gigots?
Ma mère s'obstinait.
Et s'il pisse sur les meubles? C'est toi qui les nettoieras, hein?
On le corrigera. D'ailleurs, d'un ton persuasif, et comme si cela devait couper court à toutes autres objections, « D'ailleurs, reprit-il, il s'appelle Bijou. » Et il le mit à terre, tandis que ma mère soupirait. « Enfin, il faut en passer par tout ce que tu veux. Moi, je ne compte pour rien ici. Ta domestique, et puis voilà tout. Pourvu que tu trouves la soupe bonne et ton linge propre. Un chien, dans la situation où nous sommes. Je vous demande un peu. »
Délivré de la peau de Bic, Bijou alla, aussitôt, les oreilles tombantes et la queue basse, se cacher sous le buffet, où il demeura toute la soirée, allongé sur le ventre, à regarder d'un regard un peu étonné les nouveaux maîtres chez qui il allait vivre désormais. J'étais enchantée. J'allais donc avoir enfin un ami de toutes les heures, un être intelligent et bon, fidèle, avec qui je pourrais causer en toute liberté, en qui je pourrais verser toutes mes confidences, mes chagrins, mes ennuis, mes joies. Mes joies ! Eh bien oui, mes joies, puisque j'en aurai maintenant des joies, et qu'elles me viendront de lui. J'augurai mille choses agréables et infiniment douces, en songeant à cette amitié future, car j'avais remarqué que, de son côté, Bijou avait dû faire, relativement à moi, des réflexions pareilles aux miennes. Je n'avais pas eu tort, car le lendemain matin, étant descendu avant ma mère à la cuisine, j'aperçus Bijou, qui, dès qu'il m'eut vu, vint à moi, la queue joyeuse, et me sauta aux jambes. « Waouh, waouh, waouh !»« Oui, oui, mon petit Bijou, je te comprends bien, et nous nous amuserons tous les deux. Et nous nous dirons des choses que nous n'avons dites encore à personne. Parce que, vois-tu, personne ne comprend les petits chiens et les petits enfants. Ouah, ouah, ouah !» Et prenant Bijou dans mes bras, je l'embrassai et je lui dis « Bijou, Bijou, je suis content que tu sois venu. Je ne serai plus seul maintenant, plus jamais seul. » Ah, qui expliquera jamais ce que c'est qu'un chien ? Quant à moi, je ne le serai point. Pour pénétrer dans l'âme inconnue et charmante des bêtes, il faudrait connaître leur langage, car elles ont, chacune, un langage avec quoi elles nous parlent et que nous n'entendons pas. Les physiologistes ont beau fouiller de leur scalpel le cerveau des bêtes, nous ne saurons jamais rien d'elles. La grande erreur et le grand orgueil aussi de ceux-là qui tentèrent d'étudier le fonctionnement de la vie intellectuelle chez les animaux furent de leur attribuer, à l'état embryonnaire, des idées humaines. La vérité est que les bêtes doivent penser selon leur forme, les chiens en chien, les chevaux en cheval, les oiseaux en oiseau. Et voilà pourquoi nous ne nous comprendrons jamais. Les savants ont tiré de l'infériorité des bêtes, par rapport à nous, cet argument que, depuis qu'elles existent, elles font toujours les mêmes choses, avec les mêmes mouvements, qu'elles n'inventent ni ne progressent. Et qui nous dit que ce que nous appelons rythme mécanique ne sont pas des lois morales supérieures, et que si les bêtes ne progressent pas, c'est qu'elles sont arrivées du premier coup à la perfection, tandis que l'homme tâtonne, cherche, change, détruit et reconstruit, sans être parvenu encore à la stabilité de son intelligence, au but de son désir, à l'harmonie de sa forme. Et puis, refuser de la spontanéité, c'est-à-dire de la volonté, de la conscience, aux bêtes, me semble une proposition purement injurieuse et parfaitement calomniatrice. Entre autres faits angoissants que je pourrais citer, en voici un auquel il me fut donné d'assister, et qui fit sur moi une telle impression que depuis, je ne peux plus voir, sans remords, passer un troupeau de bœufs, et qu'il ne m'a plus été possible de manger du poulet. Ma mère avait une amie qui élevait des poules en grande quantité. Vous pensez bien que ce n'était pas pour son plaisir qu'elle les élevait. Elle les élevait pour les engraisser, les malheureuses bestioles, et pour les vendre. Un jour,
elle s'aperçut, avec stupeur, que sa basse-cour était ravagée par la diphtérie. Ses poules mouraient comme les mouches en novembre. Tous les matins, on en trouvait 2, 5, 10, 15, toutes raides, à la crête noire, sur le plancher des poulaillers. Et la brave femme se lamentait, Dieu sait comme, et elle pleurait et elle criait, « Les pauvres bêtes !» Mais ce n'était pas sur les pauvres bêtes qu'elle pleurait, c'était sur elle-même. Sur le conseil d'un hygiéniste, elle commença par désinfecter sa basse-cour. Puis, elle mit à part, à l'autre bout de sa propriété, dans une sorte de petit lazaret, les poules notoirement atteintes du mal. Elle les soigna avec un dévouement, ou plutôt avec une ténacité surprenante. Le dévouement suppose de la noblesse, des qualités d'âme que n'avait point l'ami de ma mère. La ténacité évoque tout de suite un intérêt cupide. En effet, si elle se désespérait de la maladie de ses poules, ce n'est point qu'elle les aima d'avoir été gentille, c'est que c'était pour elle perte d'argent ou gain compromis. 4 fois par jour, elle se rendait au petit lazaret, avec toute une pharmacie compliquée et bruyante. Et c'était une grande pitié, vraiment, que de voir ces misérables poules, le dos rond, la plume triste et bouffante, la tête basse, rester immobiles des journées entières à regarder quoi. Accroupies au milieu du lazaret, la bonne femme les prenait une à une, leur nettoyait la gorge au moyen de longs pinceaux trempés dans des huiles antiseptiques. Puis, elle leur introduisait de force dans le gosier des boulettes de viande poudrées de quinquina. Et c'était des luttes, des cris, des battements d'ailes, un supplice enfin pour les petites malades. Aussi, lorsqu'elles voyaient arriver de loin leur maîtresse avec son tablier blanc et sa pharmacie et son panier de torture, elles se mettaient à glousser de terreur, à sautiller sur leurs pattes et elles cherchaient à fuir. Or, une fois que j'étais chez la bonne femme et que je l'accompagnais au lazaret, voici ce que je vis. Aussitôt qu'elles nous eurent aperçus, traversant les pelouses et piquant vers le lazaret, 3 poules survinrent, clopin-clopant, se ranger devant leurs augettes remplies de millet. Et avec des mines ostentatoires et sournoises, avec des mouvements extraordinairement précipités, elles firent semblant de manger, avidement. Vous avez bien lu, n'est-ce pas? Elles ne mangèrent pas, elles firent semblant de manger. Et le plus étonnant, c'est que, entre chaque coup de bec dans l'augette, elles nous regardaient d'un œil malicieux, et elles paraissaient nous dire « Vous voyez bien, mes braves gens, que nous sommes guéris, et que vous n'avez plus besoin de nous racler la gorge, et de nous introduire ces horribles boulettes qui nous dégoûtent et nous font si mal. Admirez comme nous sommes de vaillantes poules, et quel appétit est le nôtre. Remportez vos boîtes, vos fioles, vos pinceaux. » Et en effet, je ne m'étais pas trompée. Elle faisait semblant de manger d'un appétit furieux, en tapant du bec, frénétiquement, dans l'augette, qui peu à peu se vidait. La bonne femme, qui n'était pas une observatrice, fut prise à cette supercherie. Elle dit joyeusement « Ah, mes poules sont guéries !»« Pas du tout, protestai-je. Elles ne sont pas du tout guéries. Elles font semblant de manger, dans le but d'éviter vos soins qui les embêtent. » « C'est ma foi vrai ? » s'écria la bonne femme. « Ah, les garces !» Quant à Bijou, je ne le gardais pas longtemps. Il mourut par une triste nuit, entre mes bras. Il mourut pour, en fouillant dans les ordures de la rue, avoir avalé un morceau de verre. Son agonie fut quelque chose d'horrible. Dans mes bras, il avait des plaintes comme un petit enfant et il me regardait avec des supplications si douloureuses que je pleurais à chaudes larmes en criant « Bijou, Bijou, ne meurs pas, tu me fais trop de peine. Ou si tu meurs, ne me regarde pas ainsi, Bijou. » Bijou, mon pauvre Bijou !»
Quand il fut mort, je redevins plus seule que jamais. Et d'avoir connu l'amitié d'une petite bête, la solitude me fut quelque chose de plus pesant et de plus atroce. C'est ainsi que je fus amenée, peu à peu, par la privation de tout amour, à ne vivre qu'en moi-même, à me créer des figures, des aventures et des paysages purement intérieurs. Toute la journée, dans une petite pièce sombre qui donnait sur une cour noire et sale, occupée à la tenue des livres et à la correspondance commerciale, travaux que je finis par rendre absolument mécaniques, je ne sortais jamais plus, dans la ville ni dans la campagne. J'en arrivais très vite, et presque sans souffrir, à m'abstraire même des événements quotidiens de la maison, même de mon père, de ma mère, de la vieille femme de ménage, des clients, qui n'étaient plus pour moi que de vagues ombres, projetées sur le carreau de la boutique, ou glissant sur les murs. La conversation de mes parents, le soir, leurs querelles, aiguës et glapissantes, leurs plaintes, leurs conseils et leurs reproches, tout cela n'avait pas plus d'importance dans ma vie muette et fermée aux bruits extérieurs que le bourdonnement des mouches dans l'arrière-boutique où je travaillais, ou que le vent soufflant du dehors sur les toits de la ville. Et encore, il m'arrivait parfois d'écouter le vent. Il avait des musiques que j'aimais. J'en ai dit assez, je pense, sur mon adolescence solitaire, rêveuse et triste, pour bien faire comprendre le pauvre être silencieux, ignorant, timide et passionné que j'étais. Lorsqu'il fut, un beau soir, décidé par mes parents que j'irais à Paris. Je dis « mes parents », et ce n'est exact que pour l'un d'eux, car mon père n'approuvait pas ce départ, et il invoquait, à l'appui de sa résistance, des raisons qu'il émettait du reste avec l'air de « s'en fiche », si je puis dire. « Pour un autre, parbleu, Paris serait la fortune. Ah, si j'avais été à Paris, moi !» « Mais lui, que veux-tu qu'il fasse à Paris ?» Ma mère était d'un avis différent. On sentait dans toutes ses paroles la hâte qu'elle avait de se débarrasser de moi. Pourquoi ? Est-ce que je la gênais ? Cela me fit de la peine, non pour moi, je vous assure, mais pour elle. Je n'aimais pas à la surprendre en flagrant délit d'égoïsme et de dureté. Aux objections de plus en plus indécises de mon père, elle répliquait « Une place comme ça, c'est une chance incroyable. Si nous n'en profitons pas, nous l'aurons toujours sur les bras. Que peut-il devenir ici, sinon manger de la nourriture qu'il ne gagne même pas ?»« Enfin, il t'aide, il tient les livres. Eh bien, il ne manquerait plus que ça. » »« Oui, mais Paris... » « Voilà-t-il pas une grande affaire? Il s'arrangera, donc !» Or, cette place obtenue, grâce à je ne sais plus quelle recommandation du curé, c'était une place moitié de comptable, moitié de copiste, dans une administration, dont, après 3 ans, je n'ai jamais pu savoir ce qu'elle administrait, et si elle était commerciale, industrielle, financière, artistique, politique, religieuse, militaire, maritime, coloniale, étant un peu tout cela et bien d'autres choses encore. Naturellement, ce fut l'avis de ma mère qui prévalut. Quant à moi, selon les bonnes traditions de la famille, je n'avais même pas été consultée. Bien d'autres eussent été heureux de partir d'une maison où ils n'étaient pas aimés, heureux de conquérir leur liberté et de donner à leurs rêves de jeunesse l'essor magnifique. Eh bien, cette décision, je l'acceptais avec la plus complète indifférence et sans la moindre curiosité. Là ou ailleurs, que m'importait ? Puisque j'avais déjà pris l'habitude de ne pas vivre parmi les hommes et parmi les choses, puisque je sentais que je ne pourrais vivre qu'en moi-même. Ce fut ma mère qui m'installa à Paris, n'ayant pas, pour cette délicate mission, confiance en mon père, lequel ne faisait jamais que des bêtises et n'avait pas la moindre idée de ce qu'est l'argent. Elle profita de ce voyage pour renouer connaissance avec ses vieux amis de la famille, les braves merciers du Marais, chez qui le commerce n'allait pas, et dont plus tard je devais épouser la fille. Nous fûmes bien accueillis. Chacun se remémora un tas de vieilles choses oubliées, et dans un attendrissement général, il fut convenu que je viendrais, chaque dimanche, dîner en famille, avec ses vieux amis de la famille, que diable! Et nous le surveillerons, et nous lui apprendrons ce que c'est que l'existence parisienne. Ce sera comme notre enfant, notre deuxième enfant. Sur leur indication, ma mère me choisit, pour la somme de 15 francs par mois, une chambre, ou plutôt un indicible taudis, dans une ignoble maison meublée de la rue Princesse. Une petite rue étroite et sombre, sans cesse encombrée de lourds camions et où jamais l'air ni la lumière n'avaient pénétré. Ma mère dit simplement, après avoir pour la forme inspecté la chambre, « Ça n'est pas très luxueux. Et puis, là, tu es à égale distance de ton bureau et des vieux amis de la famille. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a là, tout près, un omnibus pour les jours de pluie. Ce qui est très commode. » Ma chambre donnait à l'extérieur sur une cour aussi noire, aussi humide, mais moins large qu'un puits. Quand on ouvrait l'unique fenêtre, on se heurtait à la fenêtre, en face, où pendaient sur des cordes d'innommables guenilles. À l'intérieur, elle donnait sur un palier puant, suintant, et qui tout de suite vous donnait l'idée du crime. Le soir, une petite veilleuse qui brûlait dans un coin, à chaque étage, faisait mouvoir des ombres effarantes. Pour voisin, j'avais à droite une espèce d'individu sale et rébarbatif qui, je le sus plus tard, vendait dans les rues des plans de Paris et, je crois, aussi des images défendues, qu'on appelle des cartes transparentes. À gauche, j'avais une vieille dame asthmatique qui réparait des tapisseries. Les locataires des autres étages me semblèrent dans le même genre de conditions misérables ou de métiers louches, appartenant presque tous à cette confrérie extraordinaire, mystérieuse et troublante du Camelot. J'avoue que je ne fus pas trop rassurée. Ma mère, sans doute, n'avait rien vu de tout cela. Elle n'avait vu ni ses murs, ni ses escaliers, ni ses visages, car je ne puis croire qu'elle ait délibérément et consciemment choisi ce coupe-gorge pour y loger son fils. C'est dans cette maison de la rue Princesse que, 8 jours après mon installation, il m'arriva la seule aventure dramatique de ma vie. Une nuit, il pouvait être 2 heures du matin. Je venais de m'endormir. Je m'endormais très tard, parce que, ayant pu me procurer des livres, je lisais jusqu'à ce que la fatigue me fît tomber le livre des mains. Je venais de m'endormir lorsque je fus réveillée en sursaut par un grand cri. Ce cri semblait avoir été poussé dans la chambre de gauche qu'habitait la vieille dame aux tapisseries. À vrai dire, je n'étais pas très étonnée. Terrifiée, oui, peut-être, mais étonnée, non. Ce qui m'étonnait, c'est que ce qui arrivait là ne fût pas arrivé plus tôt. J'écoutais, le cœur battant. Un second cri, plus faible, puis, comme un bruit de lutte, un heurt de meubles, un paquet qu'on traîne, des chaises remuées, des coups sourds, et enfin, une voix de terreur que je distinguais nettement, une voix de femme comme étouffée et criant « Au secours ! Au secours !» à plusieurs reprises, puis rien. À la hâte, je m'habillais dans l'obscurité. Ma peur était telle que pour rien au monde je n'aurais voulu allumer une bougie. Dans la chambre voisine, tous les bruits avaient cessé. Et c'était maintenant, dans toute la maison, comme un silence de mort. J'hésitais longtemps à prendre un parti.
N'avais-je pas été victime d'une hallucination ? J'écoutais encore. Rien que le tic-tac de mon cœur qui battait avec force. Et ce silence me parut plus effrayant que les bruits, que la voix, que les coups sourds. « Il faut que je sache !» me dis-je. J'ouvris la porte et me trouvai sur le palier. La veilleuse était éteinte. Je ne pouvais plus avancer. Pourtant, le courage ne tarda pas à me revenir. Le désir de savoir ce qui s'était passé là galvanisa ma terreur. Après tout, j'avais peut-être été victime d'une hallucination. Mais je voulais en avoir le cœur net, comme disait ma mère chaque fois qu'elle se trouvait en présence de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Si je mentionne ce souvenir, qui peut paraître puéril ou déplacé en un tel récit, c'est que je me rappelle que durant ces tragiques minutes, j'avais la hantise de cette phrase stupide et que je me répétais sans cesse, d'une voix intérieure mais obstinée, ces mots « Je veux en avoir le cœur net !» « Je veux en avoir le cœur net. » Je rentrai dans ma chambre où j'allumai, avec combien de peine, une bougie et je sortis de nouveau sur le palier. Alors, je vis une chose si effrayante que je reculai encore. Mais ce ne fut qu'une faiblesse d'une seconde et par un violent effort sur moi-même, je la surmontai facilement. La porte de cette chambre, qu'habitait la vieille dame aux tapisseries, était grande ouverte. Un linge blanchâtre et deux pieds en dépassaient le seuil. Deux pieds immobiles et nus, dressés dans la position que doivent avoir des pieds appartenant à une personne couchée sur le dos. Il est rare que les choses, à l'exception des yeux, soient effrayantes en soi. Elles ne le sont que par les circonstances qui les entourent, à un moment déterminé, et les événements terribles où elles n'ont d'autre valeur d'action que d'y avoir, je ne dis pas même participer, mais simplement assister. Ce qui m'effrayait dans ces pieds, ce n'étaient pas les pieds eux-mêmes, mais les cris, les appels, les chocs que j'avais entendus, et qui leur donnaient une signification précise de témoignage. Et puis, il faut bien que je le dise, à cet effroi général s'ajoutait un autre effroi particulier. C'est que j'ai toujours eu l'invincible dégoût des pieds nus. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais je n'ai jamais pu voir des pieds nus sans qu'aussitôt ils évoquassent en moi les images si singulièrement effarantes de l'embryon. Des analogies avec les larves, les fœtus. Oui, tout le cauchemar horrible de l'inachevé. Décidé à savoir, je me portai en face de la chambre. Et, tendant la lumière au bout de mon bras allongé, dans l'ombre de la chambre, je vis ceci. Une femme, la vieille femme aux tapisseries, était couchée sur le plancher, la gorge largement fendue par une blessure où le sang se caillait en noirs et luisants grumelots. Elle était à peu près nue et très pâle de peau. Sur sa pauvre gorge couturée, sur sa poitrine maigre, sur ses bras osseux, sur son ventre plissé, dans ses cheveux grisonnants, partout du sang, des éclaboussements de sang. Je me souviens que sa main baignait tout entière dans une mare rouge qui s'étalait autour d'elle, sur le plancher. Je pensais défaillir, mais faisant appel à toutes mes énergies, je me précipitai sur la vieille femme. Je me penchai pour voir, pour sentir qu'elle n'était pas morte, qu'elle respirait encore peut-être. Je tenais le bougeoir dans ma main droite et je me rappelle qu'une goutte de cire liquide tomba sur son œil grand ouvert où elle se figea, blanchâtre, comme une taie. Et toujours en moi cette phrase qui ne me quittait pas et qui, maintenant, sautillait en moi comme un refrain de chanson. « Je veux en avoir le cœur net, je veux en avoir le cœur net !» Je posai le bougeoir près du corps et je me mis à le tâter en toutes ses parties. Les membres étaient encore chauds et souples, mais le ventre se refroidissait et le cœur ne battait plus. La pauvre vieille était bien morte. Or, je veux vous avouer l'étrange sensation que j'éprouvais à la suite de cette constatation. Ce fut presque de la joie. Non, pas de la joie tout à fait, mais quelque chose de doux comme une délivrance. J'avais la poitrine libre, les membres plus légers, le cerveau tranquille. Je ne ressentais plus de terreur. Et en vérité, j'étais presque content que la vieille fût morte. Morte. Je n'avais plus rien à faire qu'à me dire qu'elle était bien morte. Vivante, c'était toute une complication. Il m'eût fallu tenter de la rappeler complètement à la vie. À la lueur très faible de la bougie, je remarquai dans la chambre des traces de violence et de lutte. Les draps du lit arrachés, deux chaises tombées, les tiroirs d'une commode vidés, un globe de verre brisé et dont les morceaux brillaient çà et là, parmi des choses déchiquetées et jonchant le carrelage du plancher. Je n'attachai pas d'abord à ce désordre des objets une idée autre que celle du désordre lui-même. Je commençai par ramener sur le ventre nu de la vieille femme sa chemise roulée, déchirée et sanglante, et prenant le cadavre dans mes bras, la face, la poitrine, les mains barbouillées de sang visqueux, je m'ingéniai à le soulever, à le traîner, afin de pouvoir le déposer sur le lit. Deux fois je le laissai retomber avec un bruit sourd. Ploc ! Je veux en avoir le cœur net ! Je veux en avoir le cœur net ! Chantait en moi la voix de plus en plus obstinée. Et comme, pour la troisième fois, je tentais d'enserrer le cadavre trop lourd pour mes bras débiles, une main tout à coup se posa sur mon épaule pesamment. Je poussai un cri et me retournai, et je vis deux yeux féroces et gouailleurs, une barbe sale, une bouche ignoblement tombante, la bouche, la barbe, les yeux de mon voisin, le camelot. « Ah ! Fit-il, je t'y pince ! Qu'est-ce que tu fais ici ?» L'étonnement ne me permit pas de parler. L'étonnement seul, car je n'imaginais rien au-delà de cette présence, et je n'en redoutais rien d'autre que la propre terreur qu'elle dégageait. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » répéta-t-il. « Je ne sais pas, » balbutiai-je. « Ah, tu ne sais pas, elle est bonne !» Et il me secouait rudement par les épaules. Il était en chemise, lui aussi, avec les jambes nues, des jambes couvertes de poils. « Pourquoi es-tu ici ?» Alors, ne sachant ce que je répondais, je répondis sur l'air de la chanson qui chantait en moi. « Je voulais en avoir le cœur net. »« Ah, tu voulais en avoir le cœur net. Eh bien, attends un peu. » M'ayant lâché, il sortit, referma la porte, et j'entendis aussitôt la voix qui retentissait dans l'escalier. « Ah, l'assassin ! Au secours ! Au secours !» Et des portes claquèrent, et des voix se répondirent d'étage en étage, et les cris du camelot retentirent plus fort. « Ah, l'assassin ! Au secours !» Hébété, je m'étais laissé tomber sur le plancher près du cadavre, et je répétais sur l'air d'une vieille chanson de mon pays « Je veux en avoir le cœur net !»